Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. En Syrie, comme en Irak, la guerre civile a relancé la question kurde. La faiblesse des États centraux a donné aux Kurdes des idées, de nouvelles idées, des ailes et puis des marges de manœuvre. Installés principalement dans quatre pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, les Kurdes sont entre 25 et 35 millions. Ils ont préservé leur dialecte au pluriel, leur tradition, puis une organisation dont on dit qu'elle est largement clanique. Les Kurdes revendiquent d'ailleurs et depuis très longtemps la création d'un Kurdistan unifié. Alors on verra, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela, mais pas forcément sous la même forme selon les pays. Nous le verrons. Et puis avec des réponses différentes des États centraux. En Irak, les Kurdes ont déjà une sorte d'autonomie, ils en veulent plus. Tandis qu'en Turquie, après l'ouverture de négociations de paix en 2012, les combats ont repris l'été dernier. Les Kurdes ont par ailleurs revendiqué plusieurs attentats dernièrement. Alors à l'occasion d'un nouvel an kurde qu'on fête aujourd'hui, de la proclamation la semaine dernière en Syrie d'une région fédérale kurde, une question au menu du débat de ce soir, un État kurde est-il possible ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Karim Pakzad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan. Vous êtes déjà venu dans ce débat. Guillaume Perrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de la Turquie. Vous êtes également déjà intervenu dans ce débat au sujet du génocide arménien. Je voudrais vous poser la première question de cette émission. La semaine dernière, les Kurdes syriens ont proclamé une région fédérale dans le nord de la Syrie. En fait, c'est l'Union de trois cantons, Afrin, Kobané et Jazirée. Les Kurdes syriens ont d'ailleurs défendu cette idée aujourd'hui à Moscou. Alors dans un pays qui est en guerre, on le sait, qui est très morcelé territorialement, il faut le rappeler, est-ce que c'est le début d'un État kurde de Syrie, ce qui a été proclamé ?
C'est leur rêve, en tout cas, certainement. On peut dire qu'aujourd'hui, les Kurdes en Syrie sont déjà en train de préparer l'après-Assad. Ils sont déjà en train de pousser leur pion pour essayer d'établir une structure para-étatique dans le nord de la Syrie. Alors effectivement, ces trois cantons ont été réunifiés et forment aujourd'hui un territoire autonome. C'est une fédération démocratique syrienne qui n'a pas le nom kurde dans son nom, puisque les Kurdes prétendent à une sorte d'universalisme, en fait, et veulent faire une fédération démocratique qui unisse tous les peuples de Syrie sous la bannière de leur parti principal, qui est le PYD, le parti de l'Union démocratique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment cette prétention universaliste est quand même un tout petit peu exagérée, qui reste derrière tout ça une idéologie très marquée, qui est celle d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et que cette structure para-étatique
qui est aujourd'hui détenue en Turquie
absolument, et qui a je dirais quand même créé tout un courant de pensée, un courant politique chez les Kurdes. Et cette structure étatique dans le nord de la Syrie aujourd'hui, l'émanation du PKK finalement.
Mais alors vous dites structure étatique, mais concrètement, est-ce que les Kurdes de Syrie ont aujourd'hui les moyens d'administrer un État dans cette région ?
Ça a commencé, si vous voulez, en 2012, quand les troupes d'Assad se sont retirées et ont laissé la gestion des grandes villes de ces régions à majorité kurde. La population est à majorité kurde, et le régime Assad a laissé la gestion de ces villes au parti kurde. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont pu s'organiser, fonder des institutions. Alors, on a une police, on a un embryon d'armée, ce sont les fameux YPG qui affrontent Daesh sur le terrain depuis 2012-2013. On a des structures sociales, municipales, enfin, on a une espèce d'embryon autonome démocratique qui se veut indépendant des autres forces sur le terrain, qui sont aussi
et du
bien
groupe État islamique qui lui aussi revendique d'être une structure étatique.
De l'armée syrienne et du régime. Mais dans les faits, évidemment, cette autonomie est quand même très très partielle, puisque les fonctionnaires continuent à être payés par Damas et qu'il y a encore toutes sortes de formes de dépendance par rapport à l'État central.
Karim Pakzad, est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vient de nous dire Guillaume Perrier, quand même la naissance d'une structure à vocation étatique?
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, tout en nuancé que moi je ne peux pas utiliser le terme de structure étatique. On est dans une situation de guerre parmi les Kurdes de différents pays. Les Kurdes syriens, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le déclenchement de la guerre en Syrie, étaient, par rapport aux autres Kurdes, étaient assez marginaux. Et il jouait pas grand rôle, ni dans le mouvement de culte dans l'ensemble, dans son ensemble, ni apparaissait en tant que.
Vous voulez dire assez modéré dans leurs revendications
politiques.
C'est-à-dire
que d'abord c'est parce qu'ils sont pas assez nombreux par rapport aux autres Kurdes. C'est-à-dire en Syrie, à peu près 2 millions de Kurdes par rapport à la population de la Syrie, c'est vraiment très minoritaire. Bon, on peut estimer, c'est pas 10%, même pas, le nombre de la population kurde de la Syrie. C'est la raison pour laquelle, les Kurdes de la Syrie, on sait vite, depuis le père de Bachar Assad, les Kurdes de la Syrie a été vraiment réprimés et parfois a été même privés de carte d'identité, de passeport. Donc ils n'avaient pas de rôle à jouer. On ne parlait pas de Kurdes syriens. On ne parlait.
Et alors la rupture, c'est quoi?
C'est la guerre. En fait, les combattants, oui, ça a été bien dit, le Parti d'Union démocratique des Kurdes syriennes, c'est une émanation de PKK en Syrie, ça c'est pas un secret pour personne. Or, les Kurdes syriennes, à partir de 2014, fin 2014-2015, il y a eu un événement majeur en Syrie, c'est leur résistance à Kobané.
Alors, le Kobané. Et la majorité kurde qui a écrit.
Absolument. Et Daesh a connu son premier échec, non seulement en Syrie, mais dans l'ensemble. En Syrie, en Irak, à Kobané.
Et donc, ça a redonné de la force politique
pas
aux Kurdes de Syrie.
Oui, pas dans seulement.
Dans le bras de fer avec les autres Kurdes.
Non, d'abord ils se sont affirmés en tant qu'une entité ethnico-politique. Et deuxièmement, la situation a fait que ceux qui étaient considérés jusqu'à là comme des. Au maximum, si on acceptait leur existence comme des terroristes affiliés à PKK, même les Américains, les Européens, tout le monde a mis le PKK sur la liste des organisations terroristes. Or, Kobané a changé tout. Les Américains, les Français, tout le monde ont commencé alors par acheter des armes, des vivres, parce qu'ils servaient une cause. Quelle cause? Se battre contre Daesh. Or, ces Kurdes-là, aujourd'hui, ce sont ceux qui combattent mieux Daesh aujourd'hui, et ils profitent de cette situation pour affirmer, pas pour réclamer un État. Leur revendication de fédéralisme, c'est une sorte d'affirmation politique. Je pense qu'ils satisferont d'une autonomie interne si le moment est venu.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette proclamation, elle arrive quand même à un moment bien particulier. Les négociations à Genève, qui sont, rappelons-le, des négociations indirectes entre le régime et l'opposition. Les Kurdes n'ont pas été invités. C'est évidemment pas anodin, Guillaume Perrier.
Bien sûr, et ça intervient surtout au lendemain de l'annonce du retrait russe de Syrie. Donc on voit bien effectivement que les Kurdes sont dans une stratégie où ils essayent de pousser leur pion le plus loin possible, de maximiser les profits territoriaux avant les négociations de Genève, qui évidemment les exclut depuis le début, puisque toutes les parties se sont entendues pour exclure les Kurdes de ces négociations, notamment sous la pression de la Turquie, évidemment. Donc oui, je crois que comme nous l'a bien dit
Karim Pakzad,
la résistance de Kobané a été vraiment un élément décisif pour comprendre la résurgence de cette idée d'État kurde, et puis cette incroyable victoire qui les a galvanisés d'abord contre Daesh, ça a été le début d'un retournement militaire, et puis contre la Turquie, puisque la Turquie et Daesh étaient plus ou moins alliés pour étouffer Kobané. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce retournement de situation fait que les Kurdes ont propagé la guerre sur le sol turc, et on retrouve ça aujourd'hui très bien à Diyarbakir ou à Cizre, par exemple.
Alors justement, quelles sont les relations entre les Kurdes de Syrie et les Kurdes de Turquie, qui sont beaucoup plus nombreux, on parle de 12 millions de personnes, et qui ont un poids en termes de ratio de population beaucoup plus important?
Elles sont très étroites, si vous voulez. La frontière entre les deux est une frontière tout à fait virtuelle, à beaucoup d'égards. C'est une frontière extrêmement artificielle qui a été tracée après, à la fin de la Première Guerre mondiale, le long de la ligne de chemin de fer qui suivait le chemin de fer Berlin-Bagdad. C'est une frontière virtuelle. Des villes ont été coupées en deux. Kobané, de l'autre côté de la frontière, il y a sa ville jumelle avec la population qui est la même, des familles qui souvent ont été coupées en deux. Donc il y a une proximité proximité culturelle, géographique, linguistique et politique, puisque de part et d'autre, c'est le PKK qui est le la principale force politique.
Et alors, la proclamation de cet État fédéral en Syrie, est-ce que ça veut dire que ça va être fait en Turquie là? Non, ça paraît beaucoup plus compliqué.
L'extension de la lutte est aujourd'hui une réalité en Turquie. Donc il y a évidemment une continuité politique, une continuité idéologique et possiblement territoriale. Mais bien sûr, la Turquie s'y oppose et continuera de s'y opposer.
Un État kurde est-il possible? C'est le débat de ce soir avec nos deux invités, Guillaume Perrier, que vous venez d'entendre, et puis Karim Pakzad, qui est juste à côté de moi. Karim Pakzad, je voudrais qu'on parle maintenant des Kurdes d'Irak, puisqu'ils sont aussi nombreux en Irak. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Kurdes d'Irak ont déjà une autonomie, et qu'il y a eu cette demande de référendum d'autodétermination par leur chef, Massoud Barzani, qui a dit, il y a encore quelques jours, l'heure est venue. Alors, est-ce qu'un Kurdistan irakien indépendant est envisageable aujourd'hui?
Non. La réponse est non, pour plusieurs raisons. D'abord, Massoud Barzani a fait cette déclaration tout en soulignant que même si la réponse est oui, il ne l'appliquera pas. Pourquoi? Parce que, oui, évidemment, parce qu'il y a un bras de fer qui est engagé depuis la chute de Saddam Hussein avec le nouveau pouvoir chiite majoritaire à Bagdad. Beaucoup d'éléments, mais notamment la question de Kirkuk, le partage de revenus pétroliers, exploitation des puits de pétrole dans le nord, etc., etc.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un éventuel État kurde irakien n'a pas les reins assez solides pour se désolidariser de Bagdad?
Non, parce que l'économie de Kurdistan irakien dépend de deux choses.
Pétrole?
D'abord le pétrole, ça c'est récent, mais avant le pétrole, en fait, dans le système irakien, ça c'est l'héritier de l'époque de Saddam Hussein, lorsque l'Irak était sous les sanctions internationales, c'est-à-dire que 17% des revenus pétroliers irakiens qui étaient bloqués dans les banques étrangères étaient destinés aux Kurdes. Et ce système est toujours valable, c'est-à-dire que le gouvernement central irakien verse sur les revenus pétroliers de l'ensemble de l'Irak 17% aux Kurdes. Or, parfois, il y a des conflits entre le gouvernement central et l'autorité autonome du Kurdistan, parce que le gouvernement central est mécontent du fait que les Kurdes négocient et signent des contrats directement avec les compagnies étrangères pour exploiter leur pétrole. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, le Kurdistan irakien, qui a connu un développement extrêmement rapide depuis 10 ans, se trouve dans des difficultés économiques extrêmes à cause de baisse de prix de pétrole. Le principal revenu de Kurdistan.
Et donc, politiquement, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de demander l'indépendance.
Voilà. Et deuxième élément, c'est quoi? Ils savent bien quoi. À part Israël, qui a ouvertement les a même encouragés de proclamer leur indépendance, aucun pays, ni en Occident, ni dans la région, n'est prêt à vraiment à soutenir une revendication d'un État indépendant.
Et d'ailleurs, on l'a vu aussi pour la proclamation de l'État des Kurdes syriens. Il n'y a personne qui soutient.
Ils sont très raisonnables. Je peux dire un petit mot. Dans la tête de chaque Kurde, le rêve d'un État kurde existe. Mais en même temps, ils sont assez raisonnables pour savoir qu'à l'heure actuelle, aucune puissance n'est prête à reconnaître une modification des frontières dans cette région héritée de la Première Guerre mondiale.
Alors, Guillaume Perrier, je voudrais qu'on essaie de mettre un petit peu en perspective. On a vu, il y a les Kurdes de Syrie, les Kurdes de Turquie qui sont très proches, les Kurdes d'Irak qui sont moins proches. Il y a aussi des Kurdes en Iran. Est-ce que tous ces Kurdes parlent, s'organisent politiquement et ont la volonté d'essayer de faire des choses ensemble aujourd'hui?
C'est assez peu probable, en fait, aujourd'hui, le paysage qu'on vient de dessiner. Alors, il y a une multitude de partis politiques, de courants, d'influences, mais c'est vrai que schématiquement, aujourd'hui, on a quand même deux camps qui s'affrontent. Le PDK, Massoud Barzani, qui est évidemment l'héritier de Mustafa Barzani, donc
en
de
Irak.
La lutte historique des Kurdes au Moyen-Orient, en Irak et en Iran. Ils ont aussi une influence dans les autres parties du Kurdistan. C'est un mouvement quand même qui est plutôt conservateur, qui aujourd'hui est allié à la Turquie et à l'Arabie Saoudite, qui sont ses principaux mécènes. Et de l'autre côté, on a l'émanation du PKK, qui est une guérilla marxiste, qui se réclame d'une forme d'autonomie démocratique pratique, donc pas de d'indépendance évidemment, mais quand même d'une forme d'autonomie, et qui là n'a aucun allié. Alors aujourd'hui, des alliés de circonstance évidemment, avec les Américains sur le terrain, mais on s'aperçoit très vite que ces alliances sont très éphémères. Enfin, elles n'auront sans doute pas de continuité au-delà d'une guerre. Donc on
C'est-à-dire
a ces deux camps qui s'affrontent.
Le conflit syrien n'a pas eu tant d'impact que ça pour la question kurde en matière d'alliance?
C'est difficile à dire. On peut pas mesurer encore l'impact que ça pourra avoir à long terme. Ça serait prendre un risque important que de vous dire non. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a évidemment une visibilité plus importante de la lutte des Kurdes, hein, et des revendications. Mais pour l'instant, la perspective d'un État kurde reste extrêmement hypothétique.
Karim Pakzad, vous dites s'il y a quand même un impact.
Il y a eu un impact extrêmement important sur la situation dans le Kurdistan irakien. Vous vous souvenez, au moment de en juillet-août 2014, lorsque après la prise de Mossoul, Daesh a poussé ses avantages et puis a chassé les Yazidis de la ville de Sanjar. Or, les Peshmerga kurdes irakiennes qui défendaient la ligne de front, si vous voulez, très vite ils ont abandonné leur position, et ce sont des Kurdes de la Turquie, de PKK, qui sont venus à Sinjar, qui restent aujourd'hui à Sinjar, qui non seulement
ils ont résisté, donc il y a eu une solidarité kurde,
voilà, ils ont résisté contre l'avancée de Daesh, mais ensuite ils ont réussi à libérer Sinjar. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les jeunes yazidis, notamment les filles, hein, ils vont grossir les rangs de PKK, et cette influence de PKK, qui est, il faut souligner, turque, les Kurdes de la Turquie, en Irak, chez les Kurdes irakiens, les Kurdes irakiens qui quasiment de facto ont obtenu un semblant d'État. Là, oui, on peut parler d'un semblant d'une structure étatique. Ils n'aiment pas que les autres Kurdes viennent mettre en danger cette existence.
Mais il y a quand même eu une sorte d'unité kurde qui s'est créée à ce moment-là et qui a été un peu capable de lutter contre le groupe État islamique. C'est un peu cette image-là qu'on a...
D'unité, oui. Pas vraiment. Enfin, il y a une unité de façade, hein, effectivement. Mais ce que veut dire monsieur Pakzadeh, c'est que le PKK est arrivé à la rescousse des Yézidis, alors que les Peshmerga du Kurdistan irakien avaient déserté le terrain, effectivement, et avaient abandonné la ville aux mains de Daesh. Donc, on a encore une fois une concurrence entre deux mouvements militaires et deux mouvements politiques qui sont assez opposés et qui se concurrenceront la domination d'un
et
éventuel Kurdistan.
Et qui a aggravé la situation politique au Kurdistan. L'une des raisons pour laquelle Massoud Barzani n'a pas respecté la constitution même de Kurdistan et organisé des élections.
Oui, puisque son mandat a échu il y a quelques mois, l'été dernier, et qu'il n'y a toujours pas de nouvelles élections qui sont prévues. Je voudrais quand même vous poser une question, il ne nous reste plus qu'une minute, mais certains spécialistes écrivent qu'un État kurde serait peut-être utile à la paix dans la région. Donc une région qui est effectivement totalement sinistrée, qui connaît une guerre sans fin depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Pakzad? Ce serait utile, un État, une sorte de pilier stable?
Vous posez une question où personne n'a de réponse, parce qu'on ne sait pas.
C'est pour
pas,
ça que je vous la pose à la fin de l'émission.
Parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a un autre élément qui empêche la création d'un État kurde. On vient d'évoquer. Les Kurdes eux-mêmes sont extrêmement divisés. Donc, voilà, je ne peux pas vous répondre, mais une chose est certaine, qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas, dans 20 ans, 10 ans, 40 ans, je ne peux pas prévoir, il y aura un État kurde.
Alors, Guillaume Perrier, sur cette question qui n'a pas de réponse, est-ce que vous avez comme une idée?
Ça restera une question centrale, évidemment, pour le Moyen-Orient encore dans les décennies à venir, mais les Kurdes restent enfermés, enserrés entre trois formes de nationalisme, le nationalisme iranien, le nationalisme turc et le nationalisme arabe. Et ça, malheureusement, l'histoire n'aura du mal à effacer la présence de ces trois grands empires qui enserrent le peuple kurde. Donc, un compromis est nécessaire pour arriver à une solution pacifique, mais est-ce qu'il est envisageable? C'est une autre question.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à nos deux invités. Guillaume Perrier, journaliste indépendant, spécialiste de la Turquie. Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak. Merci à Florence Poncet et Hélène Avril. On se retrouve demain. En attendant, le journal en France est facile.